Donc, Bonaparte, bon, c'est un homme des Lumières, bien évidemment, et en quelque sorte, il est imbibé de la vision de l'histoire universelle qui est celle des Lumières finissantes de la fin du XVIIIe siècle. Et dans cette histoire universelle, les Arabes apparaissent comme une étape essentielle de l'histoire des sciences et des arts, comme on disait à l'époque, le schéma, ce que j'avais appelé jadis le club méditerrané, c'est-à-dire Égypte avec la sagesse, c'est le début de l'histoire. Ensuite, Rome et la Grèce, c'est le civisme. Ensuite, les Arabes, c'est la science. Et ensuite, l'histoire recommence en sens inverse. Les sciences arrivent par les Arabes en France, en Europe. Et ensuite, la Révolution française sera la restauration du civisme. Et évidemment, nous irons en Égypte chercher la sagesse. Ça, c'est un des aspects obscurs des Lumières, ce côté ésotérique. Alors, nous avons le privilège d'avoir les annotations que le jeune Bonaparte a faites sur un certain nombre de livres, en particulier deux qui sont tout à fait importants. C'est un best-seller de la fin du XVIIIe siècle, Mémoire sur les Turcs et les Tartares du baron de Tott, qui lui donne un tableau de l'Empire ottoman, et l'histoire des Arabes de Marigny, qui est une vaste compilation, mais qui permet de couvrir toute l'histoire arabe, des origines au XVIIIe siècle. Alors, Bonaparte, il a une vision contradictoire de l'Orient, comme tous ses contemporains. D'une part, il trouve une société arriérée, immobilisée sur la voie du progrès, victime du despotisme. D'autre part, il sent que l'Orient est la terre par excellence où le grand homme conquérant et législateur peut réaliser de grandes choses. Alors, c'est une contradiction tout à fait apparente, parce que c'est justement le retard de l'Orient qui permet justement de se libérer d'une poids de la civilisation qui entrave les volontés de puissance en Europe. En tout cas, à chaque étape de sa jeune carrière, Bonaparte a un tropisme vers l'Orient. Les Claris, avec qui ils sont alliés par le mariage à Marseille, sont des négociants qui travaillent avec le Levant. En 1795, jeune officier un peu hors de cour, il postule à une mission militaire dans l'Empire ottoman. Là aussi, autre chose fondamentale, c'est sa rencontre avec le philosophe et voyageur Volney. D'abord, c'est un des grands auteurs de la fin du XVIIIe siècle, du mouvement de pensée qu'on appelle l'idéologie. Mais surtout, pour ce qui nous intéresse, Volney est envoyé par le mouvement révolutionnaire en Corse en 1791. Et pendant plusieurs mois, Bonaparte et Volney vont mener la propagande révolutionnaire en Corse avant d'être chassés de Corse par Paoli. Donc il y a un contact direct. Il est évident que le jeune officier a beaucoup discuté avec le voyageur philosophe qui vient juste de publier Les Ruines en 1787, qui est un peu un apocalypse des Lumières. Donc l'influence de Volney est tout à fait directe. Alors, il faut savoir que Bonaparte, comme tous ses contemporains, procède par une historicisation des structures sociales. Vous savez, en Europe, vous aviez les trois ordres, la noblesse, le tiers-état, le clergé, des visions fonctionnelles du pouvoir, qui est en fait sur un fondement anthropologique. Mais les gens, depuis le XVIIe siècle, assimilaient les trois ordres à une conquête germanique. La noblesse était issue des conquérants germaniques. Et du coup, Sieyès disait qu'il faut les renvoyer dans les forêts de Franconie. Et la même chose a été faite par les orientalistes français à la fin du XVIIIe siècle, où on va établir ce qu'on appelle la théorie du despotisme militaire, qui est que les sociétés orientales sont issues de la conquête militaire des Turcs ici, et que donc les peuples soumis aux Turcs constituent une sorte de tiers-État qui ne demande qu'à être libéré puisqu'il ne peut pas se libérer. Alors, faut bien comprendre comment fonctionne Bonaparte, parce qu'il est à la fois celui qui fait des calculs les plus pragmatiques et les plus politiciens, et qui envisage les plus grandes choses possibles. Et on le retrouve dans une très belle lettre à Talleyrand en 1797, lors de négociations de Campo Formio. Je n'ai point eu, depuis que je suis en Italie, pour auxiliaire l'amour de la liberté des peuples et de l'égalité, ou du moins cela a été un auxiliaire très faible. Mais la bonne discipline de notre armée, le grand respect que nous avons tous eu pour la religion, que nous avons porté jusqu'à la cajolerie pour ses ministres, de la justice, surtout une grande activité et promptitude à réprimer les malintentionnés et à punir ceux qui se déclaraient contre nous, tel a été le véritable auxiliaire de l'armée d'Italie. Voilà l'historique. Tout ce qui est bon à dire dans des proclamations, des discours imprimés sont des romans. Si l'on prend pour base de toutes les opérations la vraie politique, qui n'est autre chose que le calcul des combinaisons et des chances, nous serons pour longtemps la grande nation et l'arbitre de l'Europe. Je dis plus, nous tenons à la balance de l'Europe. Nous la ferons pencher comme nous voudrons, et même si tel est l'ordre du destin, je ne vois pas d'impossibilité à ce qu'on arrive à peu d'années à ces grands résultats que l'imagination échauffée et enthousiaste entrevoit et que l'homme extrêmement froid, constant et raisonné atteindra seul. C'est ça le Bonaparte qui part en Égypte avec à la fois cette combinaison et cette chaleur de l'imagination. Alors en Égypte même, bon, on ne va pas revenir sur les origines de la campagne d'Égypte, c'est un peu compliqué, il a tenté de se présenter comme tout simplement non seulement le libérateur des Arabes et des musulmans, mais tout simplement comme le nouveau prophète. Il s'est présenté comme le Mahdi des musulmans, comme le montre cette proclamation à la population du Caire. Y aurait-il un homme assez aveugle pour ne pas voir que le destin lui-même dirige toutes mes opérations ? Y aurait-il quelqu'un d'assez incrédule pour évoquer en doute que tout dans ce vaste univers est soumis à l'empire du destin ? Faites connaître au peuple que depuis que le monde est monde, il était écrit qu'après avoir détruit les ennemis de l'islamisme, fait abattre les croix, je viendrai du fond de l'Occident remplir la tâche qui m'était imposée. Faites voir au peuple que dans le Saint-Livre du Coran, dans plus de 20 passages, ce qui est arrivé était prévu et ce qui arrivera est également expliqué. Je pourrais demander compte à chacun de vous des sentiments les plus secrets du cœur, car je sais tout, même ce que vous n'avez dit à personne. Mais un jour viendra où tout le monde verra avec évidence que je suis conduit par des ordres supérieurs et que tous les efforts humains ne peuvent rien contre moi. Heureux ceux qui, de bonne foi, sont les premiers à se mettre avec moi. Évidemment, les Égyptiens ont dit, il est un peu fêlé. Hein ils ont dû dire en bon arabe, Tarchiche, c'est-à-dire intoxiqué ou hachiche, mais bon, ils n'ont pas osé le dire en public. Alors, toujours est-il qu'il y aurait, l'anecdote est controversée, c'est un peu plus compliqué, mais en gros, pour simplifier les choses, il aurait envisagé de convertir l'armée française à l'islam. Alors, il aurait consulté les chers, et il leur a dit, je veux convertir l'armée française. Alors les chefs ont dit, pas de problème, on est devant des problèmes. Mais il y a quelques difficultés. Alors Bonaparte a dit, oui, voilà, je ne peux pas les circoncire. Ah ben non, bon, ça c'est pas inscrit dans le Coran, répondent les chefs, il n'y a pas de problème. Mais Bonaparte dit, je ne peux pas leur interdire l'alcool. Les chefs leur disent, non Bonaparte, il n'y a pas de problème. Simplement, ils n'iront pas au paradis. Donc, évidemment, ça fait flop. Mais toujours est-il qu'en effet, en Égypte, en quelque sorte, Bonaparte a cherché à capter l'islam, comme un peu plus tard, il a cherché à capter la Révolution française. Ça demande la gigantesque ambition du bonhomme, mais toujours à chaleur de l'imagination et froideur des calculs chez lui. Alors, dans le contexte, au départ, il s'est présenté comme envoyé par le sultan ottoman, et puis quand les Égyptiens ont découvert que le sultan ottoman n'était pas au courant, évidemment, ça s'est mal passé. Donc, il a fallu qu'à ce moment-là, qu'il se présente comme libérateur des Arabes, et donc, il a fait des déclarations au nom du nationalisme arabe, qui n'existait absolument pas à l'époque, puisque les Égyptiens ne savaient pas qu'ils étaient des Arabes. Pour un Égyptien du temps, un Arabe, c'est un Bédouin, c'est un salaud, c'est un racketteur, etc. Donc, citation, « Pourquoi la nation arabe est-elle soumise aux Turcs ? Comment la fertile Égypte, la Sainte Arabie, sont-elles dominées par des peuples sortis du Caucase ? Si Mahomet descendait aujourd'hui des ciels sur la terre, où irait-il ? Serait-ce à la Mecque ? Il ne serait pas au centre de l'Empire musulman, serait-ce à Constantinople, mais c'est une ville profane où il y a plus d'infidèles que de croyants. Ce serait se mettre au milieu de ses ennemis. Non, il préférait l'eau bénie du Nil. Il viendrait habiter la sainte mosquée Gama al-Azhar, cette première clé de la sainte Kaaba. Et voilà, donc, il fait un certain nombre de proclamations s'adressant à la nation arabe et incitant à un patriotisme arabe. Et encore une fois, ça fait littéralement flop. Parce que là encore, c'est incompréhensible pour les populations de l'époque. Il est dans ce que j'ai appelé la logique anticipatrice des Lumières, qui décrit le monde à venir, mais pas tel qu'il est au moment même. Alors, on a deux idées, si vous voulez, de ça. D'une part, quand il fait la proclamation de débarquement en Égypte, il dit aux soldats, vous avez vu dans notre vie ce qui va changer la civilisation du monde. Et c'est Bonaparte qui introduit le terme de civilisation dans la langue politique européenne et française par conséquent. Là, on a eu un colloque au Collège de France dont vous trouverez les actes, il comprend des articles sur l'histoire du mot civilisation. Mais pour être brièvement, il apparaît dans les années 1750, dans le sens à peu près moderne du terme. Mais il n'est qu'un usage secondaire en sciences politiques, en quelque sorte. Et en fait, la Révolution française, dans sa première phase, s'est faite au nom de la régénération. Et à partir de 1798, la régénération est tombée et on parle de civilisation. Et le terme de civilisation est absolument récurrent dans toutes les proclamations napoléoniennes jusqu'à 1815. Napoléon, c'est l'homme de la civilisation en marche, partout où il va. Et il combat les ennemis de la civilisation, qui sont les peuples arriérés, donc les Turcs, mais aussi les Espagnols, les Italiens du Sud, et finalement, la campagne de Russie, c'est une campagne de la civilisation contre la barbarie. Donc c'est lui qui fait du terme de civilisation un mot d'ordre politique. Et un toast lors de la fête de la République, le 1er Vendémiaire en 21 septembre 1799, montre combien les officiers comprennent ça, puisque le toast c'est le suivant. À la civilisation de l'Égypte, nous donnons au monde le premier exemple d'un législateur conquérant. Jusqu'à nous, les vainqueurs avaient toujours adopté les lois des vaincus. Reportons sur eux le triomphe de la raison, plus difficile que celui des armes, et montrons-nous autant supérieurs aux autres nations que Bonaparte l'est à Genghis Khan, évidemment. Donc vous voyez au passage que les officiers de l'armée d'Égypte avaient une bonne connaissance de l'histoire universelle. Alors, le meilleur interprète de Bonaparte en Égypte, c'est Volney. Volney n'est pas participé à l'expédition parce qu'il faisait son second voyage, cette fois-ci en Amérique du Nord. Donc, il est rentré en France après le départ de l'expédition. Mais une fois arrivé en France, il comprend parfaitement le plan de Bonaparte en Égypte. Il l'expose dans le Moniteur du 26 Brumaire en 7, 16 novembre 1798. Et quand ce texte arrivera en Égypte, Bonaparte le fera immédiatement publier dans le Courrier de l'Égypte, ce qui montre qu'il endosse complètement l'analyse que Volney a faite. Donc, le but n'est pas de marcher sur l'Inde, il y a trop d'obstacles géographiques et humains, mais Bonaparte doit réformer l'Égypte en favorisant l'agriculture et les manufactures et en diffusant l'instruction. Et Volney continue. En un mot, il crée une nation, émanant le ressort puissant de l'enthousiasme, il rappelle aux Arabes la gloire de leurs ancêtres, et leur montre dans l'armée française l'instrument miraculeux des décrets de la Providence, qui veut ressusciter la puissance des anciens Arabes, et les délivrer du joug des barbares osmanlins, épurer la loi du prophète altérée par des ignorants et des impies, et ouvrir pour l'Asie un siècle nouveau de grandeur, de science et de gloire. Et dans ce texte de Volney, Volney dit tout simplement, il veut créer une colonie franco-arabe. Et c'est la première fois que le terme franco-arabe apparaît dans le vocabulaire. J'y pensais parce que j'ai fait, pas la dernière fois, mais Jacques Berck, en 1956, quand il fait sa leçon inaugurale au Collège de France en pleine crise de Suez, fait sa leçon sur l'avenir de la chose franco-arabe. Donc, on voit ce tracé du franco-arabe jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans cette affaire, qu'est-ce que pensaient les Égyptiens? Alors, on a une anecdote qui est rapportée par le Courrier de l'Égypte. Et le Courrier de l'Égypte, c'était le journal de l'armée d'Égypte. Avant, il y avait un journal en Italie, l'armée d'Italie. Et donc, maintenant, il y a un Courrier d'Égypte. C'est la première application d'imprimerie en Égypte. Et l'anecdote est rapportée dans le Courrier de l'Égypte pour le 21 frimaire en 7, qui tout le monde ici sait que c'est le 11 décembre 1798, quand Bonaparte est allé dîner chez le cheikh al-Sadat, donc l'un des plus grands chers d'Égypte, un des maîtres de Lazare, bête de confrérie par ailleurs, pour la fête de Seyda Zainab. Alors le texte dit « Le dîner a été précédé et suivi de la conversation ». Le général Bonaparte a dit au cheikh que les Arabes avaient cultivé les arts et les sciences du temps des califes, mais qu'ils étaient aujourd'hui dans une ignorance profonde et qu'il ne leur restait rien des connaissances de leurs ancêtres. Le cheikh Sadat répondit qu'il leur restait le Coran, qui renfermait toutes les connaissances. Le général demanda si le Coran enseignait à fondre le canon. Tous les chers présents répondirent hardiment que oui. Et là, on a tout le dialogue ou toute l'absence de dialogue avec l'islamisme jusqu'à aujourd'hui. Il y a tout dans le Coran et à chaque fois qu'il y a une nouvelle invention, on le retrouve dans le Coran. Hein? Alors, je passe sur l'intérêt formidable que Bonaparte a pour l'islam en général, les institutions musulmanes dont il parle avec beaucoup de respect. Dans les écrits de Sainte-Hélène, il y a des textes admirables, surprenants sur la polygamie. Je passe parce que je n'ai pas le temps de les raconter. Il reconnaît en même temps qu'il était totalement charlatan. Il y a toujours une ambiguïté sur son séjour en Égypte, parce que d'un côté, il en parle beaucoup avec beaucoup d'émotion, mais en même temps, il dit qu'il faisait le charlatan. Donc, de ce point de vue, il faut savoir qu'en tout cas, durant toute sa vie, Bonaparte a toujours eu un très grand respect envers l'islam. Et il dit à Chateaubriand, à chaque fois que je voyais des musulmans prier, j'étais toujours intrigué pour savoir quel Dieu. Mais il y a toujours eu chez lui un respect profond. Pour l'islam, il n'y a jamais un texte négatif envers l'islam dans le corpus napoléonien. Sachant aussi que c'est avec le retour de l'armée d'Égypte, on a ramené entre 2 et 3 000 Égyptiens et Palestiniens avec l'armée française parce qu'ils étaient collaborateurs, donc ils risquaient d'avoir un mauvais sort. Alors, quelques-uns de ces 2 ou 3 000 ont formé les chasseurs d'Orient. Ce sont ces pauvres gars qui venaient de Galilée ou de Moyenne-Égypte et qui se sont retrouvés quelque part entre Madrid et Moscou. Vous les voyez dans les tableaux de Goya, par exemple, les fameux mamelouks. Et à ce moment-là, donc, les mamelouks sont devenus aussi les images napoléoniennes, ce qui explique le massacre des mamelouks à Marseille durant la Terreur blanche en 1815. Et d'autre part, cette présence d'environ 2 à 3 000 personnes, très majoritairement musulmanes, est la première installation durable des musulmans dans la société française. C'est là. Avant, vous avez quelques musulmans et pas qui viennent, mais l'existence d'une présence musulmane en France, c'est le retour d'Égypte. Et à partir de ce moment-là, les effectifs continueront à monter. Alors, passons à Napoléon II. Je me suis contenté de citer Rochefort, le célèbre polémiste, dans La Lanterne. Comme bonapartiste, je préfère Napoléon II. C'est mon droit. J'ajouterais même qu'il représente pour moi l'idéal du souverain. Personne ne niera qu'il ait occupé le trône, puisque son successeur s'appelle Napoléon III. Quel règne, mes amis, quel règne! Pas une contribution, pas de guerre inutile, pas de ces expéditions lointaines dans lesquelles on dépense 600 millions pour en réclamer 15 francs. Pas de liste civile dévorante. Et oui, Napoléon II, je t'aime et je t'admire sans réserve. Qui donc osera prétendre maintenant que je ne suis pas bonapartiste? Donc ça, c'est pour Napoléon II. Et passons au troisième. Alors évidemment, le troisième, c'est d'abord l'héritier du corpus napoléonien. Ah, les idées napoléoniennes, c'est lui qui les rédige, qui les... Il est complètement imbibé. L'expédition de Syrie, c'est un grand souvenir, puisque « Partons pour la Syrie » était la chanson des bonapartistes sous le Second Empire, etc. Donc il y a toutes ces... symbolique. C'est d'ailleurs sous Napoléon III que sera publiée la première édition des œuvres complètes de Napoléon Ier, qui a juste été dépassée par la récente édition de l'Institut Napoléon. Mais pendant près de un siècle et demi, on n'avait que l'édition faite sous Napoléon III. Le problème, c'est que Napoléon III, il s'appuie sur l'Église catholique et pas sur l'islam comme Napoléon Ier. Donc, il fait d'abord une politique au Proche-Orient de protection des communautés chrétiennes. Et en même temps, il se heurte, en tant que défenseur du protectorat catholique, à la prétention russe d'exercer un protectorat sur les orthodoxes, ce qui met en cause le sort des Balkans. Et évidemment, c'est la guerre de Crimée qui touche que marginalement la question arabe, évidemment, mais qui fait de la France la protectrice de l'Empire ottoman, au même titre que la Grande-Bretagne, et qui enclenche le mouvement d'émancipation des non-musulmans dans l'Empire ottoman. Alors, ça, évidemment, c'est tout à fait compatible avec l'Église catholique. Il y a une médaille que j'ai souvent montrée qui représente la reine Victoria au nom du protestantisme, le sultan Abdelmejid au nom de l'islam et Napoléon III au nom de la catholicité, défendant la civilisation contre les Russes. Parce que c'est les Russes qui ne sont pas civilisés, ce n'est pas les Arabes. Mais en même temps, Napoléon, dans la seconde partie du règne, disons à partir de Napoléon III à partir de 1860, ébauche ce qu'on appelait la politique du royaume arabe. Alors, la première partie de la politique du royaume arabe est liée à la question syrienne, hein, puisqu'il y a eu les massacres de 1860 au Liban et à Damas, et là, on a envoyé l'armée française au nom de l'Europe, avec un mandat limité en temps, pour s'interposer. Et du coup, il y a une conférence internationale qui est organisé, d'abord sur place à Beyrouth et puis ensuite à Constantinople, pour décider du sort de la Syrie. Et les Français proposent la constitution d'un royaume arabe de Syrie qui serait confié à l'émir Abdelkader. Mais l'intéressé n'en veut pas. Alors, de telles raisons, il sait qu'il n'a pas les moyens. Et en même temps, c'est devenu un mystique. Enfin, c'était quelqu'un qui était formé au mysticisme musulman. Et Abdelkader numéro 2, celui en dehors de l'Algérie, d'abord un mystique qui se refuse d'entrer dans l'action politique. Donc c'est là où il y a la première ébauche, mais qui va le conduire à s'intéresser à l'Algérie. Et Napoléon III va aborder l'Algérie au nom de la thématique que j'ai déjà abordée tout à l'heure, héritée des Lumières, qui est ce qu'on appelle la lutte des races. Puisque finalement l'histoire de France était la lutte entre les Gaulois et les Germains, l'Algérie est une reprise de la lutte des races entre les nouveaux Gaulois, que sont les Arabes d'Algérie, et les nouveaux Romains, cette fois-ci ce n'est pas les Germains, que sont les Français. Donc quand il fait son grand voyage en Algérie, qui va conduire au Senatus Consul de 1864, c'est ça, il va dire directement aux pauvres Algériens qui ne comprennent rien, que eux, ce sont les Gaulois, et que nous, les Français, nous sommes les Romains, et que comme jadis les Gaulois, ben, vous allez devenir non pas des Gallo-Romains, mais des Arabo-Français. Voilà, donc c'est lui qui va édifier tout le substrat juridique divisant la population de l'Algérie. Et au-delà, il va essayer de désamorcer le conflit en Algérie, la guerre des races, par une politique dite du royaume arabe. Alors, d'une part, cette politique du royaume arabe, elle est aussi liée au Levant, comme le montre la célèbre lettre à MacMahon du 20 juin 1865. La France, qui sympathise partout avec les idées de nationalité, ne peut aux yeux du monde justifier la dépendance dans laquelle elle est obligée de tenir le peuple arabe s'il ne l'appelle à une meilleure existence. Lorsque notre manière de régir un peuple vaincu sera pour les 15 millions d'Arabes répandus dans les autres parties de l'Afrique et en Asie, un objet d'envie, le jour où notre puissance établie au pied de l'Atlas leur apparaîtra comme une intervention de la Providence pour élever une race déchue, ce jour-là, la gloire de la France retentira depuis Tunis jusqu'à l'Euphrate et assurera à notre pays cette prépondérance qui ne peut exciter la jalousie de personne parce qu'elle s'appuie non sur la conquête mais sur l'amour de l'humanité et du progrès. Une habile politique et plus puissant véhicule des intérêts commerciaux Et quelle politique plus habile pour la France que de donner dans ses propres États Horace Mahométane, si nombreuses en Orient et si solidaires entre elles, malgré les distances, des gages récusables de tolérance, de justice et d'égard pour la différence des mœurs, des cultes et de races. Alors voilà la liaison entre le Levant et le Maghreb. Et en même temps, dans la perspective de Napoléon III et de son conseiller Ismaël Urbain, en quelque sorte, l'Algérie coloniale doit se diviser en trois parties. Il y a un domaine colonial, proprement avec des colons, mais dont la présence est géographiquement limitée. Un camp militaire, c'est-à-dire l'encadrement militaire avec les bureaux arabes. Et un royaume arabe, dont le chef sera l'empereur des Français, puisque, en fait, il pense un peu son royaume arabe comme l'héritier du trône d'Angleterre et prince de Galles. Le royaume arabe, ça fait partie de la dynastie, du domaine de la dynastie des Bonaparte. Alors, ce sera un échec terrible, la politique du royaume arabe. Il y a de nombreuses raisons pour l'échec. D'abord, ni les colons ni l'armée n'en veut, et MacMahon sabotera la politique du royaume arabe. Il y aura la terrible sécheresse et famine de 1868 qui va mettre des centaines de milliers de victimes dans la population arabe d'Algérie et accélérer la décomposition de la société arabe algérienne. Et, soyons dire, le dernier grand auteur qui a travaillé sur le royaume arabe, c'est Michel Levallois, qui insiste aussi sur la dimension que le Napoléon III de la fin des années 1860 n'a plus la volonté politique d'imposer ses vues par rapport aux résistances de l'armée et de la société. Alors, donc, ce sera un échec et la disparition de Napoléon III va livrer littéralement la population algérienne à une oppression coloniale totale sous la Troisième République, avec marqué le terrible et humiliant code de l'indigénat que jamais un Bonaparte n'aurait accepté, en quelque sorte. Donc, voilà, en gros, nos trois Napoléons, bon, le second, évidemment, c'était pour le sourire. On voit quand même qu'ils ont incarné, chacun dans leur temps, et avec les idées de leur temps, les idées bonapartistes, c'était très lié au saint-simonisme, et Napoléon III était lié aussi au saint-simonien, et Ismaël Urbain était un saint-simonien, donc il y a l'influence du saint-simonisme qui est très forte. On peut dire qu'il y a eu une politique arabe, ou une vision arabe de la France, entre Bonaparte et Napoléon III. Et ensuite, elle se désagrège à partir des années 1870 pour prendre une autre forme totalement différente, qui est celle de la politique musulmane de la France, telle qu'elle va apparaître à partir de 1907 dans les systèmes gouvernementaux et qui va conduire à la création de la constitution de la Commission des affaires musulmanes en 1911. Mais à ce moment-là, la France pensera l'islam et non plus pensera arabe. Et les Arabes vont revenir dans l'entre-deux-guerres en posant un problème à la politique musulmane de la France. Mais ça, c'est tout à fait un autre sujet, mais je profite d'être là pour avoir une pensée envers Ageron, un de nos maîtres, qui le premier, me semble-t-il, avait écrit un article sur Napoléon III et les Arabes. Bon, je dis donc un hommage à Jean-Robert Ageron, qui a été un grand historien, peut-être beaucoup sous-estimé de nos jours, et qui, le premier, avait abordé ces questions. Voilà.